Chaque année, nous sommes heureux de nous retrouver dans divers lieux de prière de nos diverses confessions chrétiennes pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour honorer d'abord cette exigence que Jésus a confiée à ses disciples dans sa dernière prière, que nous appelons nous la prière sacerdotale, à la veille de sa passion, où il priait particulièrement le Père pour l'unité de ses disciples. Lui qui avait dit, au soir de la dernière scène, à ses disciples, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Père, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Nous savons bien, et c'est souvent notre souffrance, notre tristesse aux uns et aux autres, que notre crédibilité devant le monde viendra de notre unité. Et qu'elle commence en effet dans cette communion fraternelle dont cette prière pour l'unité doit être à la fois le signe et l'instrument. C'est qu'en effet, nous ne nous reconnaissons plus comme des étrangers. Nous ne nous reconnaissons plus comme des ennemis, comme l'étaient encore les Juifs et les Samaritains de l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous nous reconnaissons comme des frères et des sœurs. Malgré nos diversités d'approche du mystère de Jésus que nous avons tous à proclamer dans le monde d'aujourd'hui, nous voulons approfondir notre communion fraternelle. C'est bien ce que le pape Jean-Paul II, dans une très belle lettre adressée au monde catholique au début du nouveau millénaire, nous disait pour approfondir ce qu'il appelait une spiritualité de communion. Et il disait, une spiritualité de communion, c'est de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre. Pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu. Un don pour moi, et pas seulement pour celui qui l'a reçu. Que cette communion fraternelle soit toujours plus un échange de dons dans nos diversités, sans renier ce qui fait notre histoire et notre identité, mais entrant toujours pour regarder dans l'autre ce qu'il y a de positif. Nous sommes tellement enclins à voir ce qu'il y a de négatif. Pour faire de nos différences des menaces, plutôt que des chances de grandir dans une compréhension mutuelle pour que le Seigneur puisse nous faire le don de l'unité qui nous précède, parce que le Christ est un et que l'Église est une, c'est nous qui sommes divisés. Et nous voulons approfondir aussi notre quête de la vérité. Nous avons tous soif de la vérité, comme cette femme samaritaine qui a soif de la vérité. Nul ne peut se dire propriétaire de la vérité. Nul ne peut dire « je possède la vérité ». La vérité n'est pas un avoir dont on pourrait se dire propriétaire, disait notre pape émérite Benoît XVI, parce qu'elle est une personne qui seule peut dire « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin qui conduit à la vérité tout entière et à la vie en plénitude. Voilà pourquoi nous voulons regarder Jésus. Jésus qui, en cette semaine de prière pour l'unité 2015, nous est présenté dans ce magnifique et merveilleux dialogue qui initie son ministère public dans l'évangile de Jean avec cette femme samaritaine, pécheresse. Ce dialogue du Dieu créateur avec sa créature. Ce dialogue de Jésus avec la femme qui transgresse toutes les conventions de son temps. Comment un juif qui parle à une samaritaine alors qu'ils étaient ennemis et qu'ils ne se parlaient plus? Comment un juif qui parle à une femme en public alors que cela était interdit par la loi? qui s'approche d'une pécheresse, au risque d'être entachée d'impureté légale, comme le pensaient les pharisiens. Il semble, quand nous entendons cet évangile, qui est l'archétype du dialogue de Dieu avec l'homme, de l'Église avec le monde, il semble qu'il ne soit venu que pour elle. Car dans le dialogue, c'est toujours une personne avec une personne. C'est Jésus avec cette femme qui est unique, qui est précieuse, qui qu'elle soit. Dieu est venu pour tous. Il ne fait exception de personne. Il sait qu'elle est une pécheresse. Il va même lui révéler ce qui est sans doute sa culpabilité. Ce poids qui pèse si lourd, qui peut-être lui est même imposé par les hommes, qui la traite comme un objet de plaisir, et qui lui faut encore payer le lourd tribut d'aller chercher de l'eau à midi, quand le soleil est au zénith, et qu'il fait le plus chaud pour ramener sa cruche, afin de désaltérer ces hommes qui se sont vautrés eux-mêmes dans le péché. Il le sait, Jésus, et pourtant, c'est à cette femme qui va faire la révélation de son mystère. Cette femme à qui il dit « Donne-moi à boire » et nous comprenons bien vite dans ce dialogue mystérieux qui est le dialogue du salut, qu'il ne s'agit pas seulement de l'eau matérielle qui désaltère le corps, mais qu'il s'agit de son âme, de son cœur, de sa foi. Jésus qui n'a pas eu honte, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de nous appeler ses frères. Il n'a pas honte de lui demander son âme, son cœur, sa foi à cette Samaritaine, à cette pécheresse. Pour lui dire cette belle révélation, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande, donne-moi à boire, mais c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme est aussi l'archétype de tout homme, de toute femme, en quête de sens, qui a soif de vérité, qui a soif de justice, mais qui connaît bien des esclavages, l'esclavage des passions, l'esclavage de l'argent, l'esclavage du pouvoir, l'esclavage de toutes les idoles que nous nous fabriquons et auxquelles nous sommes comme asservis dans notre vie, et qui sont comme un obstacle puissant à aller jusqu'au bout de notre soif d'être désaltérés par la vérité. C'est Jésus, la vérité en personne, qui se donne à cette âme après avoir ôté l'obstacle. Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. En cela, tu dis vrai, parce que tu n'en as eu cinq, et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Quelle humilité de cette femme qui accepte cette brèche dans son cœur endurci pour laisser passer l'eau vive que Jésus lui communique et qui l'a fait grandir dans sa recherche jusqu'à l'acte de foi. Comme je voudrais, chers frères et sœurs, que nous prenions nous aussi des leçons en écoutant cet évangile. D'abord, pour le regard que nous portons sur les autres, sur les hommes et les femmes de notre temps qui peuplent ce monde, qui ont tous faim et soif de justice et de vérité, qui sont tous en quête d'un sens à donner à leur vie, quelle que soit la manière paradoxale, contrastée, parfois violente, insolente, avec laquelle ils expriment cette quête de sens, cette soif de vérité et d'amour. Qu'ils comprennent à notre regard, à notre parole, à notre manière de quémander quelque chose d'eux, qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, que Jésus est venu pour eux et qu'il est venu pour tous. Et en même temps, sachons être les intermédiaires, non pas les intermédiaires, pardon, mais les médiateurs humbles de celui qui est la vérité et auquel nous donnons tous notre foi commune. Faisons-le ensemble, cette première annonce, cette annonce du kérigme, du cœur de notre foi, de Jésus, sauveur du monde, par sa mort et sa résurrection, car nous croyons qu'il est toujours vivant. Proclamons-le. ensemble, osons peut-être le faire parfois, dans la rue. Organisons cela, ensemble, proclamons cette parole, commentons-la avec tout notre cœur, toute notre foi, pour rejoindre cette soif et cette quête de sens qui habite le cœur de tant et tant de nos contemporains, afin qu'ils croient que Jésus a été envoyé dans le monde pour sauver le monde. Amen.